Place Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
Bonsoir à la une. Emmanuel Macron qui veut accroître la pression sur la Turquie. La mise en garde également du chef de l'État sur les amalgames, selon lui, entre immigration et laïcité, le Brexit. Dans l'attente d'un accord dans les prochaines heures, quel feuilleton à la veille du Conseil européen? C'est dans les informés avec Audrey Goutard, journaliste sur France 2, présentatrice de Ligne Directe le vendredi à 19h30 sur France Info, le canal 27, avec Caroline Michel Aguirre, chef du service affaires de l'Obs, avec Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de Ouest France, qui fête demain son 75e anniversaire, pas le journaliste,
le journal,
mais le journal, et avec Georges-Marc Benhamou, journaliste, écrivain, auteur du Général a disparu, paru chez Grasset, sélectionné pour le prix Interallié. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Que peut faire l'Europe face à l'offensive turque contre les Kurdes au nord-est de l'Irak et au risque de voir se reconstituer le groupe terroriste Daesh? Emmanuel Macron, lors de sa conférence de presse commune qui s'est achevée à Toulouse aux côtés de la chancelière Angela Merkel, au sortir du Conseil des ministres franco-allemands, a parlé d'accroître la pression sur la Turquie.
En effet, ce conflit est de nature, cette attaque est de nature à aider Daesh à renaître de ses cendres. Les conséquences que cela pourrait avoir, si c'était leur libération, c'est le retour pour ces derniers au combat sur le sol. Et ils seront des contributeurs à la résurgence du djihadisme. Mais ils iront dans ces cas-là sur des théâtres d'opération. Et dans ces cas-là, il nous faudra prendre notre responsabilité en tant que coalition internationale pour stopper toute résurgence de Daesh. C'est très clair.
Audrey Goutard, il y a ce débat actuellement sur la radicalisation, sur l'islam radical. Mais tout d'abord, concernant la situation internationale, par-delà les mots du chef de l'État, que peuvent faire les Occidentaux? Pas grand-chose.
Pas grand-chose, parce qu'on sait bien que c'est un combat qui se joue entre les deux grands géants, les États-Unis, la Russie avec son influence auprès de Bachar el-Assad. Mais néanmoins, la France, l'Europe est a un poids quand même vis-à-vis de la Turquie, un poids de voisin, et peut effectivement faire pression. Je vous rappelle quand même qu'il est plus facile pour les Français de dire qu'il faut réagir contre la Turquie que pour les Allemands qui ont économiquement, qui sont très liés aux Turcs, ce qui n'est pas notre cas.
Avec une forte population turque et allemande également, une population ouvrière également, une forte communauté en Allemagne. Georges-Marc Benhamou, le commentaire sur ce qu'a dit le chef de l'État à l'instant. Il parle de la résurgence possible du djihadisme.
Oui,
il
le dit. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je suis d'accord, on ne peut pas faire grand-chose, c'est ça le grand drame. Enfin, on a l'impression de répéter un peu la même litanie sur l'impuissance européenne, on ne voit toujours rien surgir. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Audrey, quand vous dites « on a le poids des voisins face à M. Erdogan ». Quand j'ai vu M. Erdogan parler comme un voyou fasciste, nous menacer comme véritablement une sorte de Mussolini d'opérette en disant « je vais lâcher les 2 600 000 migrants », je pense que c'est lui qui a la main sur nous, hélas, et on assiste à une impuissance européenne. Alors une fois de plus, ça se joue à Moscou et à Washington, dans des conditions qu'on sait, mais malheureusement, on peut encore déplorer la curie européenne. Jusqu'à quand ?
Caroline Michel Aguirre, vous partagez le point de vue de votre voisin Georges-Marc Benhamou? Impuissance européenne, nous nous payons de mots, mais on ne peut pas faire grand-chose.
D'abord, une remarque sur ce qu'a dit le président de la République. Daesh n'est jamais mort. Il dit Daesh va renaître de ses cendres, mais en vérité, personne n'a jamais pensé que Daesh était mort. Daesh était... les combattants de Daesh étaient pour partie en prison. Certains ne se montraient plus en attendant l'opportunité de se remontrer, mais à aucun moment, on a pu penser que la menace avait disparu. Concernant la Turquie, l'Europe paye son incurie passée. Par deux fois, on a complètement tourné le dos à la Turquie. La première fois, c'était au milieu des années 2000. On s'en souvient, quand la Turquie tapait aux portes de l'Europe et que l'Europe a considéré que ça ne la concernait pas parce que la Turquie était un sous-traitant qu'on aimait beaucoup.
La question avait divisé la classe politique française.
Exactement.
Jacques Chirac était favorable, mais pas les autres.
Exactement. Je ne sais sais pas ce qu'il fallait faire à l'époque, mais le fait est que la Turquie a dit « Ok, vous voulez pas de moi, je vais faire autrement ». Et qu'en 2016, quand il y a eu cette vague de migrants et que la Turquie est passée de pays à faible coût à verrou majeur dans la vague de migrants, on s'est souvenu que c'était un pays très important dans cette plaque, dans cette région, entre l'Asie, le Moyen-Orient, l'Europe. Et on avait oublié la géopolitique à ce moment-là. La géopolitique se rappelle à l'Europe, mais il n'y a pas de cerveau pour penser de la géopolitique.
Stéphane Vernet, oui, c'est 3,5 millions de personnes qui sont dans des camps de rétention, hein, on va appeler ça comme ça, en Turquie. L'Europe, en 3 années, a versé jusqu'à 6 milliards d'euros. Il est là, le cœur du problème ?
Il y a plusieurs problèmes. Alors juste une chose, en fait, personne à aucun moment ne s'est dit que Daesh était vaincu. Oui, c'est vrai, personne sauf un monsieur qui s'appelle Donald Trump, qui lui considère que l'affaire était réglée et que donc les États-Unis pouvaient se retirer du théâtre des opérations. C'est ça quand même l'élément déclencheur, il faut le dire et le redire. Oui, il y a une incurie européenne, oui, on est incapable aujourd'hui d'arrêter cette situation face à un Erdogan qui dit « moi, je n'accepterai jamais un cessez-le-feu ou je n'accepterai un cessez-le-feu qu'à une seule condition, c'est quand j'aurai réalisé mon opération militaire. » Point. Qu'est-ce que vous voulez faire si ce n'est aller sur le terrain et s'engager dans un affrontement militaire sur le terrain? On n'en a pas les moyens, c'est pas possible. Et c'est d'autant moins possible que je vous rappelle que la Turquie fait partie de l'OTAN.
Nous sommes alliés.
Et voilà. Et donc aujourd'hui, on se retrouve effectivement dans une situation géopolitique extrêmement délicate, particulièrement dangereuse. Il n'y a pas que la problématique de Daesh, parce que d'un côté, si vous avez les troupes de Bachar al-Assad qui interviennent de manière musclés contre les troupes soutenues par la Turquie, les troupes turques sur le terrain, que vous avez une escalade avec les Russes qui s'y mettent, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va nous arriver? Oui, là, ça devient très très compliqué.
Audrey Goutard, oui.
Il faut savoir aussi que nos relations avec les Turcs sont extrêmement complexes dans le sens où il y a la surface émergée que l'on voit, c'est-à-dire la politique, et puis en dessous, il y a les relations bilatérales entre, par exemple, les policiers français et les policiers turcs. Je vous rappelle qu'on a des accords très précis de rapatriement de djihadistes vers la France. C'est des accords qui fonctionnent depuis des années et qui fonctionnent plutôt bien. Et que tout ça perdure. Le ministre de la Défense sera demain en Irak. Là encore, ça va être des discussions de gens de terrain à gens de terrain pour maintenir, si vous voulez, une pression sur les djihadistes.
Allez, vous avez évoqué à l'instant tous, hein, Erdogan et Trump. On va les entendre successivement. Vous allez voir deux personnalités avec des messages très, très différents. 20h10 sur France Info pour l'heure. Le rappel de l'info avec vous, Jules Dekis.
Emmanuel Macron et Angela Merkel espèrent un accord sur le Brexit dans les prochaines heures. Les deux dirigeants se montrent optimistes après un conseil des ministres franco-allemands à Toulouse. Les négociateurs européens et britanniques sont toujours en pleine discussion à Bruxelles. Ils ont pour objectif de s'entendre sur un texte à présenter demain lors du Conseil européen. Donald Trump souffle le chaud et le froid avec la Turquie. Il lui promet des sanctions dévastatrices si la rencontre entre le président Erdogan et le vice-président américain Mike Pence n'est pas concluante demain. Mais d'un autre côté, il affirme ce soir que les Kurdes ne sont pas des anges et que leur branche armée, le PKK, est probablement une plus grande menace terroriste que le groupe État islamique. C'est pour combattre ces Kurdes que la Turquie a lancé une offensive dans le nord de la Syrie la semaine dernière. 3 semaines après l'incendie, les autorités sont en train de terminer une zone de confinement sur le site Seveso de l'usine Lubrizol de Rouen. Elles vont donc pouvoir ordonner l'enlèvement des 160 fûts endommagés encore présents sur la zone. Des gaz toxiques ou incommodants pourraient s'échapper lors de cette opération délicate. Elle débutera mardi, annonce le préfet de Seine-Maritime, et durera plusieurs semaines. Au Maroc, le roi accorde sa grâce à la journaliste condamnée pour un avortement illégal. La jeune femme de 28 ans sera libérée dans les prochaines heures, tout comme son fiancé et le médecin accusé d'avoir pratiqué l'opération. Une affaire qui suscite un mouvement de contestation dans le pays depuis la fin du mois d'août. 6 supporters de football bulgare ont été interpellés après les cris racistes et les saluts néo-nazis qui ont perturbé le match Bulgarie-Angleterre lundi soir. Une enquête de l'UEFA est ouverte et le président de la fédération bulgare a démissionné.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Accroître la pression sur la Turquie, a déclaré Emmanuel Macron aux côtés d'Angela Merkel. Mais qu'en pense le président Erdogan de son côté, lui? Eh bien, il a sommé les forces kurdes de déposer les armes et de se retirer du nord de la Syrie. Vraisemblablement, rien n'arrêtera son offensive.
Hemen bu gece tüm teröristler Notre proposition est la suivante. Tout de suite, ce soir, que tous les terroristes déposent leurs armes et leurs équipements, détruisent toutes leurs fortifications et se retirent de la zone de sécurité que nous avons fixée. Lorsque ce que nous avons décrit sera fait, de Minbej à la frontière irakienne, alors notre opération source de paix qui ne vise que les terroristes se terminera d'elle-même.
Georges-Marc Benhamou, vous disiez que c'était un propos musclé tout à l'heure. Hein ?
Source de paix, ça s'appelle source de paix. Ouais. On a l'habitude et souvent de parler de Munich à tout propos. Il faut rappeler nos auditeurs téléspectateurs que Hitler, Mussolini, le français Daladier et l'impuissant anglais Chamberlain se sont réunis, ils ont livré le pays frère, le pays ami, la Tchécoslovaquie à Hitler.
C'est devenu une expression. Hein.
Oui, voilà. Et au fond, elle est souvent galvaudée, mais là, c'est le cas. Je crois que la démission, le retrait de Trump d'abord, et ce qu'on est en train de vivre, cette nation kurde, en tout cas cette partie de cette nation kurde qui est livrée à Erdogan, c'est un véritable Munich, une véritable démission dans le déshonneur. C'est l'expression de Churchill. Il faut quand même rappeler ça, quelle que soit notre impuissance. Et effectivement, on se tait devant monsieur Erdogan. On a peur qu'il nous envoie ces migrants. On ne fait rien pour défendre ces gens qui étaient aux premières lignes, aux avant-postes, hommes et femmes.
Et qui ont de payé la lutte contre le prix du sang.
Ce nazisme nouveau, pardon d'employer ces mots, c'est aussi simple que ça.
Munich, Caroline Michel-Laguire. Il faut rappeler qu'il y a une sorte de jeu de dupes. Hein. On va parler du retrait américain dans un instant. Il y a Poutine qui reprend la main sur la zone. Il y a l'armée de Bachar qui est en face, certes, mais qui pour l'instant ne bouge pas.
Alors la référence à Munich, oui, évidemment, puisqu'on a trahi nos alliés, c'est-à-dire refusant les uns et les autres d'aller se battre, et je ne suis pas spécialement belliciste, mais les faits sont là, d'envoyer nos soldats, c'est aux Kurdes qu'on doit l'arrêt de la progression de Daesh, et ce sont les Kurdes qu'on abandonne aujourd'hui. Donc dans cet abandon des alliés, je pense que le parallélisme se justifie, et la victoire, elle est à la fois celle totale de Poutine qui devient le vrai gendarme de la région et celle qui est en train de se dessiner, c'est celle de Bachar el-Assad, qui est appelé en sauveur, en renfort, lui qui était le paria de l'Europe et du monde il y a encore quelques années.
On va poursuivre ce tour de table. Sur cette question-là, ce Munich que vous dénoncez, Georges-Marc Benhamou, parce qu'il y a Trump, désormais accusé par de nombreuses voix aux États-Unis d'avoir abandonné les Kurdes, le président américain qui ne cesse de changer de cap, annonce du retrait des troupes, puis menace de sanctions. Il a même appelé Erdogan au téléphone contre les Turcs. Donc, et aujourd'hui, il y a eu ceci.
Les Kurdes sont plus en sécurité aujourd'hui. Les Kurdes savent se battre et, comme je l'ai dit, ce ne sont pas des anges. Ce ne sont pas des anges.
Audrey Goutard, ce ne sont pas des anges.
Certains pensent que Trump est un uluberlu qui fait des choix comme ça au fil de ses tweets. En fait, moi je pense qu'il y a un grand cynisme. Il avait deux alliés. Il avait les Kurdes et puis les Turcs. Je vous rappelle quand même qu'en Turquie, vous avez 50 bombes nucléaires sur la principale base américaine de Turquie, plus 2500, je cite les chiffres officiels, 2500 militaires américains qui sont présents en permanence et des accords entre les Américains et les Turcs de longue date, depuis la guerre froide. Donc, ce sont des pays alliés. De l'autre côté, il y avait les Kurdes, effectivement, qui se sont battus aux côtés des Américains contre l'EI. Si vous mettez ça dans une balance et que vous faites un calcul cynique, il est évident que les Turcs valent plus pour Donald Trump que les Kurdes. Et en fait, il a fait un choix. Tout comme, finalement, le président Poutine. Je vous rappelle que pour la grande angoisse du président Poutine, c'est le retour d'islamistes caucasiens chez lui. Ouais. Et que les Turcs, c'est le meilleur barrage. Et puis du côté européen, pardon, je finis juste, du côté européen, il y a le fameux verrou des réfugiés ou des djihadistes ou des 10 millions de réfugiés qui sont actuellement en Turquie et les craintes de l'Europe de voir un déferlement, entre guillemets, de ces réfugiés.
Oui, vous dites voilà, donc oui, le calcul, vous, il y a une forme il est de logique, fait, une logique qui... de Trump. Des Américains.
Mais absolument. Mais, de Poutine, ouais. Et des Européens, alors, quelque part, malgré effectivement des cris d'orfraie.
Mais tout de même, Stéphane Vernet, la première étape, c'est je retire mes 1000 soldats. Ensuite, peut-être qu'ils vont finalement rester sur zone. Puis, c'est quelque part, allô, je vais vous donner les sanctions les pires que vous puissiez imaginer en Turquie. Aujourd'hui, finalement, ces Kurdes ne sont pas des anges. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de la circonvolution trumpienne.
Mais Trump a effectivement fait un choix, mais c'est un choix stupide et scandaleux. Et c'est ce que lui dit son propre camp, c'est ce que lui disent les Républicains, c'est ce que lui dit le Pentagone. Pourquoi ? Voilà quelqu'un qui s'est appuyé sur les Kurdes pour combattre Daesh et qui aujourd'hui les abandonne. On dit on abandonne les Kurdes. Non, c'est Trump, c'est les États-Unis qui abandonnent les Kurdes. C'est pas nous, c'est pas la France. C'est Trump, c'est les États-Unis. Il fait ce choix. Moi, je souhaite bien du courage au prochain président des États-Unis, aux Américains en général, pour conduire des guerres dans le monde où ils auront besoin de s'appuyer sur des forces locales et de faire alliance avec d'autres pour mener des combats locaux. Comment ils vont faire? Tout le monde va garder en tête cette trahison. C'en est une. C'est ce que dit son propre camp à Trump. C'est ce que dit le Pentagone. Et juste sur le côté Munich 38, je conçois la comparaison, mais il faut quand même dire la vérité. Aujourd'hui, en Occident, parmi les forces, ce qu'on appelle le bloc occidental, il y a trois pays qui acceptent de payer le prix du sang, c'est-à-dire d'envoyer des militaires sur le terrain et d'accepter qu'ils meurent. Il n'y en a que trois. Les États-Unis, ils ont décidé de se retirer. La Grande-Bretagne, qui est empêtrée dans une histoire qui s'appelle le Brexit, dont on parlera tout à l'heure, qui a d'autres chats à fouetter, et la France.
Et la France.
Et c'est tout. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, est-ce que nous, la France, on a les moyens militaires, techniques d'y aller tout seul? La réponse, elle est non. Et donc, il faut trouver d'autres voies pour soutenir les Kurdes. C'est ce qu'essaye de faire le gouvernement. Et donc, oui, il y a ce côté Munich, etc., des missions, mais il faut aussi voir la réalité en face. Nous n'avons pas les moyens militairement d'imposer à la Turquie d'arrêter cette opération.
Et Georges-Marc Benhamou.
Deux observations. Ouais. Moi, je pense comme vous que Trump est un idiot total et qu'il n'est pas simplement dans une logique, Audrey. C'est un idiot total car en soutenant finalement ce qui se passe, il permet à Bachar al-Assad de réinstaller l'Iran et de faire une base open bar pour l'Iran en Syrie, open bar en Irak, et donc il y a une sorte de bêtise totale. Sur le dossier iranien, il se tire une balle dans le pied.
Ça dépend quel est votre prisme. Gautard, oui. Si votre prisme est votre électorat, sachant que vous avez des élections à assez court terme, et que vous appelez Donald Trump, et que vous savez très bien que votre électorat est contre l'idée d'avoir des militaires de par le monde, c'est un bon calcul.
Je rappelle d'ailleurs que Antoinette Lorrain, qui est la vice-présidente des Republicans in France, les Républicains, le parti de M. Trump chez nous en France, sur France Info ce matin, avait expliqué qu'ils ne voulaient plus voir revenir leur cercueil. Donc cela raconte un petit peu de ce qu'est la position aujourd'hui du président américain dans cette crise. 20h20 sur France Info. Rappel de l'info avec Jules Dequisse.
Emmanuel Macron appelle à ne pas stigmatiser les musulmans de France et à être intraitable avec le communautarisme. Prise de parole alors que le débat sur le voile suscite ces derniers jours des prises de position. Le président de la République dénonce aussi le raccourci fatal entre la lutte contre le terrorisme et l'islam. Il s'exprime depuis Toulouse où s'est tenu un sommet franco-allemand ce soir. Et le Brexit était évidemment au cœur des discussions. Comme la chancelière Angela Merkel, Emmanuel Macron espère un accord avec les Britanniques dans les prochaines heures. Eux, les Britanniques ne s'avancent pas. L'ambition est de pouvoir présenter un texte demain au 27 lors d'un Conseil européen. Les Nations Unies s'inquiètent du risque de dispersion des prisonniers djihadistes dans le nord de la Syrie. Tous les membres du Conseil de sécurité signent ce soir une déclaration commune. Elle fait part également de préoccupations sur la situation humanitaire sur place. Alors que l'offensive turque contre les Kurdes est toujours en cours, Donald Trump menace la Turquie de sanctions dévastatrices si son homologue turc ne refuse de suspendre son offensive militaire. Les syndicats de la RATP et de la SNCF promettaient déjà un jeudi noir le 5 décembre pour lutter contre la réforme des retraites. Leur appel à la grève s'étoffe très largement aujourd'hui. La CGT, FO, FSU et Solidaires ainsi que quatre organisations de jeunesse appellent aussi à manifester ce jour-là. Et puis le trafic SNCF est toujours interrompu ce soir entre Reims et Charleville-Mézières. Un TER a percuté un camion sur un passage à niveau à hauteur de Saint-Pierre-sur-Vence. Il y a trois blessés légers dont le conducteur du train.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
De politique intérieure, de préoccupation intérieure, il en a été également question pour Emmanuel Macron tout à l'heure lors de sa conférence de presse. Comme l'évoquait Jules Dequisse à l'instant, le chef de l'État a répondu à la polémique sur le voile.
Ne stigmatisons pas nos concitoyens. J'ai dit faire bloc. C'est ça la République. Faire bloc. Je pense qu'on peut le faire tous ensemble. En respectant pleinement notre laïcité, la force de celle-ci, Mais concentrons-nous sur l'essentiel, la menace. Ne divisons pas. Voilà. Je crois que c'est ça ma responsabilité dans ce moment. Et il ne s'agit pas de définir les bons points ou les mauvais points. Et sur ce sujet, le Premier ministre, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Intérieur et tout le gouvernement œuvrent chaque jour de la même manière pour faire bloc.
Caroline Michel-Aguilar, le chef de l'État, vraisemblablement, ne veut pas trancher la controverse qui divise, y compris sa propre majorité.
Il n'a jamais voulu. Il ne l'a pas fait pendant la campagne. À partir du moment où il a été élu, il nous a annoncé un grand discours sur la laïcité, qui n'est jamais venu. Après, il a promis une réforme du financement de l'islam qui n'est pas venue non plus. Il fait un petit peu de godille, donc un petit peu de fermeté après l'attentat à la préfecture de police en parlant de l'hydre islamiste et en appelant à cette société de vigilance. Juste après, il appelle à ne pas diviser la France, ce à quoi tous les esprits censés aspirent. On n'a toujours pas le début d'une réponse, parce que cette histoire de voile, c'est surtout un symptôme, je dirais une fièvre de quelque chose qui s'appelle l'islam radical, que personne ne sait comment endiguer et prendre aujourd'hui. Ouais. Et là-dessus, il n'a pas répondu.
Stéphane Bernier, est-ce que le chef de l'État, pour poursuivre ce que dit à l'instant Caroline Michel-Aguirre, n'est pas en train de lier en quelque sorte les événements, c'est-à-dire effectivement une certaine forme de radicalité, de radicalisation est-ce qu'elle se traduit dans le voile? C'est la question qui est posée aujourd'hui. Et puis les événements, la menace dont il parle, ce sont les événements dont on a parlé en ouverture des informés.
Alors déjà, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Caroline Michel-Aguirre. Je vous partage totalement l'analyse. Après, est-ce qu'il relie les deux événements? Ben oui, par la force des choses, parce que quand il parle de faire bloc, c'est le vocable qu'il a utilisé la semaine dernière dans son discours en hommage aux victimes de la préfecture de police. Donc il fait le lien de fait dans les mots qu'il utilise. Et autant son discours à la préfecture de police était remarquable, clair et intéressant, autant l'extrait que vous venez de montrer, moi là, j'ai rien compris. Mmh. Faire bloc, ne pas stigmatiser. Par rapport à la polémique qui a enflé autour de cette histoire de voile, je comprends pas la prise de position. C'est pas clair.
Georges-Marc Benhamou, c'est un mouchoir sur la polémique?
Non, moi j'ai pas compris. Même j'ai vu tout à l'heure dans une dépêche des expressions très étranges. Le président de la République, dans une période sérieuse, parlait de guerre civile.
Alors oui, il y a une citation.
Et de dénoncer les gens qui font des amalgames.
Permettez-moi, rapportés par l'Élysée. Hein, par l'Élysée. Validé par l'Élysée.
C'est quand même très grave. Et très grave. Et en même temps, je suis d'accord avec ce sentiment qui n'a que trop duré de godille que l'on vit depuis 2 ans. On sait tout à fait ce que pense Madame Macron, qui est plutôt sur une ligne de droite. On dit que maintenant, c'est le truc. La droite, c'est celle qui est, la ligne de droite, celle qui est laïque à la française. La ligne de gauche, celle qui est laïque à l'anglo-saxonne. Il faut quand même le rappeler, plutôt que de parler ligne dure, ligne molle. Donc, où il est? Moi, j'ai besoin de savoir. On a besoin d'avoir un discours à la nation. Comme certains discours à la nation ont été tenus au XIXe siècle, qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble? Qu'est-ce qui fait qu'on est français? Quelles sont les valeurs? Où on en est de la fameuse définition de Renan?
Vous voulez dire
l'accent
d'une mise au point présidentielle?
On sait tous, depuis Renan, discours à la nation, que c'est pas une race. Ouais. Mais c'est quoi les valeurs auxquelles on vient adhérer? C'est quoi l'hospitalité française? Moi, j'ai beaucoup d'affection et pour des vieilles dames voilées que je trouve très émouvantes. Mais quand le voile est une arme politique, c'est pas le même regard. Donc savoir si on est d'accord, s'il faut penser comme Madame Schiappa, ou comme Madame Sibeth Ndiaye, ou s'il faut penser comme Monsieur Blanquer. Là, il y a besoin de clarification, et c'est vital, sans aller jusqu'à des termes aussi violents, aussi graves que guerre civile. Alors... Enfin, bref. Petit père combe, réveille-toi, quoi.
Oui, Audrey Goutard.
Ou alors Clémenceau, puisqu'il a parlé de bloc.
Audrey Goutard, Emmanuel Macron, donc devant ses proches, a lancé cette mise en garde, je le cite, contre les amalgames, entre les questions d'immigration, de radicalisation, de communautarisme, de laïcité. Ce sont des informations recueillies par France Info auprès de l'Élysée. Ce sont des propos officiels pour le chef de l'État. Donc un tel amalgame conduirait à la guerre civile. Je vous rassure, on en parlera longuement dans la deuxième partie des informés de ces propos rapportés. Qu'est-ce qui vous inspire, vous, ce soir?
On voit bien la très grande difficulté qu'il peut y avoir à se montrer un républicain fort, ferme, un président d'une république laïque face à la tentation de l'islamisme politique. Et en même temps, et là j'emploie sciemment ce terme, et en même temps, une société où effectivement qui doit être ouverte aux différences, ouverte à une certaine... tolérance et évolution.
Ce sont des généralités. C'est des généralités,
mais on sent que c'est toute leur problématique. Et on voit bien tous les bisbis aujourd'hui qu'il y a eu entre le ministre de l'Éducation nationale, entre Aurélien Taché, le député, etc. Vous m'arrêtez.
Je vous arrête. Vous avez lancé le débat de la deuxième partie des informés. Allez, pardonnez-moi, c'est l'heure de la pause, cher Audrey Goutard. Nous allons longuement revenir sur ces propos présidentiels et sur les réactions qu'ils suscitent dans la deuxième partie des informés. Les 20h et 28 minutes, on marque notre pause habituelle. Comme tous les soirs, avec la météo, le rappel de l'info, et nous revenons très vite pour la deuxième partie des Informés de France Info.
Et si on était sûr d'être joignable tout le temps pour ses clients?
Tu sais, avec mon forfait mobile Orange Pro, j'appelle mes clients en illimité dans toute l'Europe.
Et moi, avec Orange Pro, j'ai jusqu'à 10 heures d'appel vers et depuis l'Algérie, le Maroc et la Tunisie.
Et ben moi, un problème avec mon mobile? J'ai une assistance 24/24, 7 jours sur 7, en France comme à l'étranger.
Bon ben on part travailler au soleil.
Avec les forfaits Performance Pro, profitez d'un forfait mobile pour les pros avec une assistance adaptée à vos besoins. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr.
Bon, demain, j'ai un point avec mon expert comptable. Tu sais où sont passées mes dernières factures?
Il les a déjà. Je lui transmets tout en temps réel. Par contre, tu as deux impayés. On ferait mieux de relancer tes clients.
T'oublies jamais rien, toi?
J'ai oublié le code Wi-Fi. Une fois.
On se sent moins seul quand on peut compter sur Cegid. Avec le portail de gestion collaborative Cegid, entreprenez bien, bien entouré. Rendez-vous sur portail.cegid.com.
France Info Météo, avec Gauthier, fabricant français de meubles de rangement sur mesure. Pour toutes les pièces de la maison, à retrouver en magasin et sur gauthier.fr.
La météo, les prévisions, avec vous Sébastien Léas pour Météo France.
Demain, le pays sera encore concerné par une perturbation. Il faut donc s'attendre à une matinée grise et des pluies intermittentes entre les côtes de l'Aquitaine et la Vendée, jusqu'à la Picardie, la Bourgogne, la Champagne-Ardenne et la Lorraine, en passant par l'Île-de-France et le centre-Val de Loire. L'après-midi, l'axe pluvieux arrosera les régions allant du Grand Est au Massif Central jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine. À l'arrière de la perturbation, un ciel de traîne va se mettre en place avec alternance de passages nuageux et d'éclaircies. Les éclaircies prendront plus de place après-midi, mais les nuages les plus menaçants donneront des averses entre la Bretagne et les Hauts-de-France. Sur le Languedoc, la journée s'annonce nuageuse. Sur le reste du pays, les éclaircies du matin laisseront place à un après-midi plus nébuleux, hormis en Corse qui gardera un soleil bien présent. Les températures maximales seront comprises entre 15 et 20 degrés sur la moitié nord et 17 à 24 degrés plus au sud.
h 30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Steven Goyer.
Bonsoir, bonsoir à tous. Emmanuel Macron appelle à être intraitable avec le communautarisme sans stigmatiser nos concitoyens. Déclaration à la tribune tout à l'heure lors de la conférence de presse donnée à l'occasion du sommet franco-allemand à Toulouse. Le président de la République appelle à faire bloc et à ne pas se diviser pour lutter d'abord et avant tout contre la radicalisation. Fin de citation. Dans le cadre du procès Mediator, l'audition aujourd'hui d'Irène Frachon, la lanceuse d'alerte par qui le scandale a été mis au jour. En 2010, après 3 ans d'enquête sur le Mediator et ses effets secondaires, elle avait alerté sur les dangers du médicament des laboratoires Servier, un médicament vendu comme un antidiabétique, soupçonné d'avoir causé la mort d'au moins 500 personnes. Pendant 4 heures, Irène Frachon, pneumologue au CHU de Brest, a notamment évoqué toutes les pressions qu'elle a subies depuis 12 ans lors de Beaulieu.
À la fin de son témoignage, le public en grande majorité composé de victimes et proches tente d'applaudir après plus de 4 heures d'exposé. La présidente menace de faire évacuer la salle. Nous ne sommes pas au spectacle. Les pressions omniprésentes sont évoquées par Irène Frachon tant du côté des laboratoires que de l'Agence française de sécurité sanitaire. L'agence a mobilisé les médecins, la justice, les politiques pour me punir de mon toupet, ajoute-t-elle. Les personnes qui allaient dans mon sens subissaient également des pressions. Je n'ai jamais eu de menace physique, mais j'ai eu peur de la censure à la sortie de mon livre en 2010. M'être attaquée au conflit d'intérêts dans ce milieu m'a marginalisée de façon majeure, dit-elle. Je suis encore aujourd'hui persona non grata dans de très nombreuses réunions scientifiques.
Lors de Beaulieu au tribunal correctionnel de Paris. Autre affaire, cette fois celle dite du bébé du coffre. 5 ans de prison ferme contre Rosa da Cruz, la mère de Serena, surnommée ainsi après 23 mois de confinement dans le coffre d'une voiture. Peine prononcée par la cour d'assises d'appel de la Haute-Vienne après 4 heures de délibération du jury et assortie d'une obligation de soins. Sa fille Serena souffre aujourd'hui d'infirmité permanente. Feu vert donné par l'Assemblée nationale à la baisse de l'impôt sur le revenu, une baisse de 5 milliards prévue dans le projet projet de budget pour l'année 2020, les députés ont approuvé la réforme par 65 voix pour et 3 contre. Près de 200 personnes mobilisées devant le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ce soir en soutien à la mère de famille voilée prise à partie vendredi dernier par Julien Odoul, élu Rassemblement National. Une scène filmée à l'origine du retour de la polémique sur le port du voile dans l'espace public ces derniers jours. 337 arrestations dans 37 pays différents. Énorme coup de filet américain et britannique contre un site pédophile qui proposait des vidéos d'abus sexuels sur des enfants. Le site représente le plus grand marché d'exploitation sexuelle d'enfants en termes de volume de contenu d'après la justice américaine. Et puis peut-être la fin des discussions sur le Brexit. Les bases d'un accord sont prêtes, a expliqué le président du Conseil européen. Pour Donald Tusk, l'accord pourrait même être signé dès demain à Bruxelles.
France Info, les informés. Jean-François Aquili.
Avec Audrey Goutard, journaliste sur France 2, présentatrice de Ligne Directe sur France Info, le canal 27, avec Caroline Michel-Aguirre, chef du service affaires de l'Obs, avec Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de Ouest France, et Georges-Marc Benamou, journaliste, écrivain, auteur de « Général a disparu », paru chez Grasset. Nous évoquions, avant la pause, les propos d'Emmanuel Macron, validés par l'Élysée autour des amalgames, selon lui, entre les questions d'immigration, de radicalisation, de communautarisme, de laïcité, le chef de l'État qui craint que ces amalgames conduisent à la guerre civile, dit-il, ce qu'en a pensé tout à l'heure Gilbert Collard, l'eurodéputé du Rassemblement National, qui était l'invité du 1850 France Info.
D'abord, c'est la première fois, je crois, sauf erreur, qu'un chef d'État évoque l'hypothèse tragique d'une guerre civile. S'il n'a, pour éviter la guerre civile, que la condamnation des amalgames, je crains fort que la guerre civile, on l'ait. Gardons-nous de voir dans le regard de tout musulman un terroriste, c'est clair, c'est dit. Mais de l'autre côté, ce n'est pas parce que M. Macron a peur des amalgames qu'il ne faut pas dire les choses quand elles se présentent. Il faut les dénoncer, il ne faut pas avoir peur.
Georges-Marc Benamou, Gilbert Collard dit ne pas avoir peur de dire les choses.
Oui, mais enfin, c'est comme le disent ces gens-là, enfin, c'est l'idéologie Zemmour. Moi, ce qui me frappe, c'est que par-delà l'extrémisme entre le communautarisme un peu anglo-saxon, hein, qui est exprimé dans les rangs de parfois de La République En Marche, et la xénophobie réelle de ces gens-là, moi, pardon de faire encore une référence historique, il y a un truc qui s'appelle la République. Hein, la République qui intègre, la République qui considère qu'il y a égalité entre les hommes et les femmes, qu'on intègre les étrangers, que on n'est pas français sur des bases raciales, mais sur des bases de valeurs, comme on disait tout à l'heure. Donc on n'a pas besoin d'écouter ça et ces gens, ces appels à la guerre civile. Mais en revanche, on a besoin de savoir ce qu'est la République, de préciser quelles sont ses valeurs et d'avoir des positions claires qui ne soient pas, bien sûr, évidemment, on n'a pas envie, personne n'a envie ni d'une guerre civile, mais parfois de clarification, de bien faire la différence entre l'islam qui est une religion absolument respectable et l'islamisme radical qu'on
ce
doit
que
regarder.
Gilbert Collard, hein.
Oui, mais enfin, moi je parle comme Mohamed Sifaoui et je pense qu'il y a une infiltration de l'islamisme radical qu'on peut voir sans paranoïa et avec le sérieux de chercheurs comme Sifaoui et autres.
Alors Caroline Michel-Aguirre, guerre civile, alors ces mots ne sont pas dans la bouche du président mais sont des mots du président rapportés et validés par l'Élysée. C'est assez inédit, finalement.
Oui, et c'est très inquiétant. Je ne vois pas bien ce que ça apporte, à part d'inquiéter les Français qui vivent déjà depuis 4 ans dans une ambiance très pesante d'attentats. Je ne vois pas la solution ou la porte qu'il ouvre en utilisant ce mot. Et ce qui me désole, vraiment ce qui me désole et ce qui est pour moi incompréhensible, c'est que les canaux en France de l'islam radical et de l'islamisme sont très connus. Vous n'ouvrez pas un dossier terroriste sans voir que c'est passé par le prêche d'un imam salafiste violent. Aujourd'hui, tous les hommes du renseignement de terrain vous parlent de prosélytisme dans les institutions.
Vous voulez dire que c'est connu?
Mais on connaît par où ça passe. Et la question du voile, elle est fausse au sens où une partie des femmes voilées expriment des convictions qui sont les leurs et une partie de ces femmes voilées expriment cette revendication de l'islam politique. On pourrait dévoiler demain toutes les femmes de France, ça ne résoudrait absolument rien à la manière dont l'islam radical se diffuse en France sur le terrain. toutes les personnes qui sont sur le terrain, même vous refaites, pour l'avoir beaucoup fait avec mon journaliste, le parcours des terroristes, il y a toujours la rencontre avec un recruteur, avec un imam. Qu'est-ce qui est fait pour ces mosquées salafistes et ces imams qui ont des prêches contraires à la République? À ça, ce n'est pas en parlant de guerre civile qu'on va apporter une réponse.
Alors, réponse Audrey Goutard, qu'est-ce que c'est? C'est le travail de terrain, c'est ça?
C'est le travail de terrain, et puis surtout, arrêter de laisser l'État reculer dans des zones où aujourd'hui, nous on le voit avec nos reportages, dans le cadre de nos reportages, etc. Vous allez dans des zones où effectivement, vous avez le trafic de drogue qui tient la cité, et les fondamentalistes qui tiennent les esprits. Donc d'un côté le pognon, et de l'autre côté les esprits, et tous, et il y a évidemment des interconnexions entre les deux, les uns nourrissant les autres et réciproquement. Donc ça fonctionne comme ça. Quand l'État disparaît, eh bien d'autres prennent la place, et ça se voit. Et juste, pardon, pour aller dans le même sens sur les femmes,
Caroline Michel-Guire,
comme par hasard, tout ce débat arrive, et l'extrême droite doit en être ravie, c'est par le biais d'une femme qui porte un voile. Et comme par hasard, c'est toujours, je ne veux pas faire ma féminisme de base, mais ça, on repart sur ces femmes qui portent le voile. Mais les femmes qui portent le voile, ce n'est pas du tout le problème. C'est un symbole, mais le vrai problème, il est, comme je vous le disais, dans les cités, dans les villes. Et un dernier truc que je disais déjà sur votre plateau la dernière fois, c'est qu'il faut toujours rappeler que les musulmans sont les premières victimes de l'islamisme, des islamistes.
Alors Stéphane Vernet, le chef de l'État, explique toujours qu'il faut éviter la stigmatisation, je le cite, ainsi que certains propos comme ceux tenus dans le JDD par Xavier Bertrand, qui avait évoqué la stratégie des intégristes qui voudrait provoquer une guerre de civilisation.
C'est une banalité.
Et l'islamisme qui gangrène le pays, c'est-à-dire des choses qui sont assez connues, propos selon le chef de l'État qui relèverait d'une sorte de faute morale. Qu'est-ce que l'on peut dire et qu'est-ce que l'on ne peut pas dire aujourd'hui?
On peut dire plein de choses. Moi, j'aimerais concernant Xavier Bertrand, il y a autre chose. Je pense que là, il y a aussi un calcul d'ordre politique aux politiciens. Oui. Malheureusement, il faut le dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un paysage qui est en train de se structurer de fait autour de deux blocs, La République en marche contre le Rassemblement national.
Xavier Bertrand a dit aussi que le chef d'État a perdu deux années, grosso modo.
Non, mais aujourd'hui, pour s'immiscer dans ce jeu-là, il y a plus grand monde. Il reste potentiellement deux personnes qui pourraient faire la synthèse entre la droite et le centre, qui sont Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. Donc la petite phrase sur les opposants qui franchissent la ligne jaune, je pense qu'elle est aussi téléguidée, malheureusement, parce que justement, ce sont deux figures qui ont un discours très fort sur l'islam radical et l'islam politique. Bon, je ferme la parenthèse, mais juste, je voudrais revenir sur le mot qui a été utilisé par Marc-Georges Benhamou. Vous avez parlé...
Georges Marc,
l'émotion. Georges Marc Benhamou, qui parle de clarification. Effectivement, on en revient à ce qu'on dit depuis le début. Il y a un besoin dans ce pays de clarification. Le discours de Macron qu'il a pas fait sur la laïcité, c'est pas un discours sur la laïcité. Il y a pas de problème avec la loi 1905. La laïcité en France, elle dit quoi? Elle dit pas qu'il faut enlever et qu'il faut forcer les femmes à ne pas porter le voile. C'est tout l'inverse. Elle reconnaît la liberté de conscience et d'opinion, y compris dans l'espace public, la liberté de chacun. Par contre, il y a un vrai problème avec le communautarisme, avec l'islam radical. On a laissé les salafistes s'installer dans les quartiers en France dans les années 90, ils n'ont pas cessé de prospérer. Il est temps de prendre ce problème.
Vous allez commettre une faute morale si on prend les critères du président de la République.
Non mais franchement, il est temps de prendre ce problème à bras le corps et d'avoir une expression du président de la République qui soit claire et forte sur le communautarisme. Il n'a pas de chance parce qu'il l'a fait dans un... Il y a une séquence qui est quand même assez phénoménale. Vous avez à la fois l'attentat de la préfecture de Paris, le débat sur l'immigration, le discours qu'il fait sur la société de vigilance, et dans la foulée, le dévoiement des propos sur la société de vigilance, c'est « Madame, vous avez un voile dans une enceinte publique, dans un hémicycle, il faut l'enlever ». Et tout ça se télescope, et on arrive à une espèce de gloubi-boulga où tout le monde y perd son latin.
Je vous ai laissé dérouler votre démonstration, c'était important que vous arriviez à son terme. On a pris un petit peu de retard, pardonnez-moi Gilles de Kiss, 20h41 sur France Info, rappel de l'info avec vous.
Les prochaines heures s'annoncent décisives pour trouver un accord sur le Brexit. À l'issue d'un sommet franco-allemand, Emmanuel Macron et Angela Merkel espèrent que les négociations en cours à Bruxelles vont aboutir d'ici demain, d'ici un Conseil européen. Le texte pourrait alors être présenté au 27, mais les Britanniques, eux, ne s'avancent pas ce soir. Si aucun accord n'est trouvé, le Royaume-Uni prévoit de quitter l'Union européenne de manière unilatérale dans deux semaines. Jean-Yves Le Drian doit arriver ce soir à Bagdad. Le ministre français des Affaires étrangères doit évoquer avec avec le pouvoir irakien et les Kurdes. La situation en Syrie, notamment celle des prisons où sont retenus environ 10 000 djihadistes étrangers, leur sécurité est menacée par l'offensive turque contre les Kurdes. La France veut aussi proposer une coopération judiciaire pour juger en Irak des combattants français actuellement détenus en Syrie. La mère de Serena voit sa peine alourdie en appel. La cour d'assises de Limoges la condamne à 5 ans de prison ferme pour avoir caché sa très jeune fille pendant près de 2 ans dans le coffre d'une voiture. L'enfant souffre aujourd'hui d'infirmité permanente. C'est un démantèlement d'une ampleur sans précédent dans la lutte contre la pédophilie. La justice américaine et la justice britannique annoncent 337 arrestations dans 38 pays. Des personnes suspectées d'alimenter un site basé en Corée du Sud est disponible sur le dark web, la face cachée de l'internet. Et puis cela vient lui compléter une troisième paire. Lionel Messi reçoit son 6e soulier d'or européen. Le footballeur argentin du FC Barcelone est le joueur qui a marqué le plus de buts, tout championnat confondu. Il en a marqué 3 de plus que Kylian Mbappé, l'attaquant français du Paris Saint-Germain.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informer, Jean-François Aquili.
Alors il y a cette controverse qui tourne depuis dimanche, depuis des propos du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, de fermeté, de clarté, c'est selon l'appréciation. Ce sujet divise hein, la majorité, il a été assez critiqué dans les rangs de La République En Marche. Je vous propose d'écouter cet extrait de Jean-Michel Blanquer, c'était sur France Inter ce matin. Vous allez sentir l'agacement du ministre de l'Éducation.
C'est un sujet qui est un sujet complexe parce que c'est un sujet hybride. C'est un sujet pour lequel notre raisonnement doit toujours être la laïcité, bien entendu. À partir de là, la sortie scolaire, c'est quelque chose d'hybride parce que c'est pas tout à fait l'école, mais c'est pas non plus tout à fait comme se promener dans la rue. C'est quelque chose d'hybride. C'est donc assez normal qu'il y ait des positions hybrides sur le sujet. Et sapristi, ne comptez pas sur moi pour avoir honte du modèle républicain français. C'est quand même incroyable aujourd'hui que quand vous dites une phrase comme « le voile n'est pas souhaitable », vous avez la terre entière qui vous traite de réactionnaire, alors que vous êtes juste républicain. Donc je suis dans la ligne de Jules Ferry et de Jean Zay, et je serai toujours avec ma colonne vertébrale sur ces questions-là, et je me laisserai pas impressionner par des gens qui défendent des thèses communautaristes.
Caroline Michel Aguirre, républicain, pas réactionnaire, c'est ce que dit le ministre de l'Éducation.
Oui, c'est affaire de nuance, et vous lanciez le sujet en parlant des divisions dans la majorité. C'est bien la raison, je pense, pour revenir à notre sujet initial sur les propos d'Emmanuel Macron, qu'il ne tranche pas. Cette question de laïcité ou de communautarisme, ou peu importe comment on l'appelle, était un impensé total de la campagne. Tous les députés ont adhéré à un programme qui était avant tout un programme que j'appellerais socio-économique, qui n'était absolument pas sur, je sais pas, quelque chose de plus métaphysique,
oui, si
je
peux le dire. Sociétales, on va dire.
Exactement, hein, voilà. Sociétales. Oui. Pourquoi il ne veut pas trancher? Parce que sa majorité, faite de gens de gauche et de droite, est complètement opposée. Est-ce qu'il devrait se réunir? C'est là où il y a un impensé du président de la République, sur quelques actions que j'évoquais précédemment, qui est-ce qu'on doit lutter contre les imams salafistes qui prêchent un islam radical? Il me semble que tout le monde pourrait tomber d'accord. Donc pourquoi continuer?
Vous dites que ça part du concret, du réel.
Évidemment, oui, de la base. C'est ce que les gens comprennent. Oui. Ils ont besoin aujourd'hui de concret.
C'est ce qu'ils voient au quotidien.
Et peu de direction et de grandes valeurs, en effet, mais pour appuyer le travail du terrain.
Georges-Marc Benhamou, partir du terrain, du réel?
Je pense qu'il y a une idée simple, parce que les Français sont des gens de bon sens et ne sont pas un peuple raciste. C'est de dire deux choses. Zéro stigmatisation raciste. Zéro. Ça ne doit pas exister dans ce pays. C'est pas la culture. Et en même temps, tolérance zéro pour ce poison qu'est le salafisme. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Mais le problème, et la réalité, c'est que les Français ont le sentiment que les imams salafistes ne partent pas, ne quittent pas. Ça ressemble parfois au cauchemar de l'étrange défaite. C'est-à-dire, l'imam qui est expulsé, on n'arrive pas à l'expulser. Enfin, il y a un côté fou. L'histoire de la préfecture de police, faudrait un historien comme Marc Bloch pour analyser ce qui s'est passé. Donc, le danger politique et moral pour la majorité et pour le pays, c'est ce sentiment d'insécurité régalienne. Monsieur Castaner est touché. Ouais. Et Monsieur Castaner étant touché, c'est Monsieur Macron qui risque d'être touché. Les Français ont besoin d'être protégés. Et ce sentiment, à tort ou à raison, il n'est pas responsable des errances de la préfecture de police et de cette médiocrité qui traîne depuis des années.
Donc vous évoquez une sorte de climat, c'est ça, de sentiment d'insécurité, de fragilisation de la société.
Qui peut être très dangereux pour la société française. Un besoin de régalien. Et après tout, on l'a plus le pilier depuis monsieur Colomb qui est parti. Souvenez-vous de Gérard Colomb.
Alors le problème au plus haut niveau, c'est qu'au fond, la fin de la récré n'est pas sifflée, je cherchais l'expression, dans les rangs de la majorité. J'en veux pour preuve ce qu'en a dit Aurore Berger, la députée des Yvelines, qui va voter la proposition de loi d'Éric Ciotti sur le voile, ce qui a mis le feu aux poudres au sein de la famille de La République En Marche. La porte-parole de la REM l'a dit hier chez nos confrères de LCP.
Moi, je suis cohérente avec des convictions que j'ai toujours eues. Si demain, il y a une proposition de loi sur le sujet, je ne vais pas me dédire parce qu'elle viendrait des LR. Je vais assumer la position qui a toujours été la mienne. Ce que je dis juste, c'est que cette proposition de loi, qu'elle vienne d'Éric Ciotti, que demain, il y a un projet de loi gouvernemental, etc., quel que soit l'émetteur, à un moment, les intentions, en tout cas du ministre de l'Éducation nationale, elles sont claires. Personne ne dit, au sein du gouvernement ou au sein de la majorité, qu'on exclurait des femmes ou des hommes, des mères ou des pères, d'accompagner leurs enfants à des sorties scolaires.
Alors André Gothard, Aurore Berger est une personnalité de conviction. Elle fait part de ses convictions. Elle voterait éventuellement cette PPL, une proposition de loi pour étendre au fond l'interdiction du voile proposée par Monsieur Ciotti. Mais c'est ce qui fracture cette majorité aujourd'hui.
Alors justement, elle a parlé de loi et c'est intéressant parce que des lois, il en existe. Après, on peut les faire évoluer. Pourquoi pas, effectivement, suivre la proposition de Monsieur Ciotti. Mais à l'heure actuelle, ce qui peut être troublant pour les gens, pour les Français, c'est que chacun donne son point de vue et le point de vue est obligatoirement très émotif parce que ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur, cet islam radical, cet islam politique. Ça fait peur. Les gens voient bien dans leur banlieue, on peut leur mentir, mais ils voient bien qu'effectivement, il y a une prise en main des fondamentalistes de certains endroits, etc. Donc les gens ont peur. Et justement, pour gérer les peurs des gens, on a créé des lois. Et on a créé une loi qui est liée au voile. On a créé une loi qui... Et c'est des lois plutôt intéressantes et plutôt bien fichues. Et de bon sens, puisqu'on parlait de... voilà. Donc on peut peut-être s'étonner de voir que des ministres donnent un point de vue très personnel qui va à l'encontre des lois à un moment où effectivement la France est fracturée.
Alors le sentiment d'insécurité, la loi, pourquoi pas, c'est Stéphane Vernier, pour conclure sur ce débat, il y a aussi cet aspect un peu polyphonique de la majorité qui inquiète peut-être, au fond ça donne un spectacle de confusion.
C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que les gens que vous avez cités, qu'on a vu s'exprimer sur le sujet, c'est plutôt des gens qui viennent de la droite, qui ont des affinités avec la droite. Et donc, on voit bien qu'il y a dans ce nouveau monde qui a été inventé par La République En Marche et Emmanuel Macron, il y a des résurgences et il y a des vieux clivages qui se réaffirment. Mais je trouve que celui qui a été le plus intéressant et le plus clair hier et aujourd'hui à l'Assemblée et au Sénat, c'est le Premier ministre, c'est Édouard Philippe. Dans les interrogations, les réponses qu'il fait dans les questions au gouvernement, il est très bon en disant « ma boussole, c'est la laïcité ». Il explique très clairement, en citant trois textes de loi fondamentaux, qu'il n'y a aucune infraction de la part de cette dame qui a été interpellée, aucune infraction à la loi de la part de cette dame qui a été interpellée dans l'hémicycle du Conseil régional. Et il dit « je ne pense pas qu'on ait besoin d'une loi pour réglementer les sorties scolaires ». Je pense pas que c'est la priorité, mais si vous pensez que c'est le cas, dit-il aux parlementaires, faites-le, c'est votre job, et il a raison. Et il termine en disant, par contre, il faut combattre le communautarisme. Et il est là, le vrai sujet.
Allez, 20h50 sur France Info. On va parler du Brexit dans un court instant. Rappel de l'info avec vous, Jules De Kiss.
Deux semaines après l'attaque au couteau à la préfecture de police de Paris, Emmanuel Macron dénonce le raccourci fatal que font certains entre l'islam et le terrorisme. Il rejette l'avoir fait lui-même quand il appelait à combattre l'hydre islamiste après cet attentat. Le chef de l'État appelle aussi à ne pas stigmatiser les musulmans de France alors que le débat sur le voile refait surface. Les sons de cloche divergent ce soir à Bruxelles sur la possibilité ou pas de trouver un accord sur le Brexit. Alors que les négociations se poursuivent, les Britanniques laissent entendre qu'il n'y a rien à attendre pour ce soir. Pour leur part, Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel espèrent la rédaction d'un texte commun dans les prochaines heures. Le but est de pouvoir le présenter au 27 demain lors du Conseil européen. Les deux chercheurs arrêtés en Iran sont des prisonniers scientifiques victimes d'une accusation complètement loufoque. C'est le point de vue sur France Info de Jean-François Bayard. Il a longtemps dirigé le centre de recherche international où travaillaient ces deux scientifiques français. Ils sont retenus depuis le début du mois de juin, accusés d'espionnage par l'Iran. La France demande dans un communiqué à mettre fin sans délai à cette situation inacceptable. L'homme qui exploite les deux attractions impliquées dans l'accident mortel de la fête foraine de Firminy lundi est mis en examen pour homicide et blessures involontaires. Les deux manèges qui se sont percutés étaient trop proches l'un de l'autre, d'après les enquêteurs. Une jeune femme de 23 ans est morte, une autre de 20 ans est toujours dans le coma à l'hôpital. Et puis la justice italienne autorise finalement le prêt de cette œuvre de Léonard de Vinci à la France. L'homme de Vitruve sera donc bien exposé au Louvre à partir du 24 octobre.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Ce qui va suivre en revanche est tout sauf clair. Va-t-on vers un accord pour le Brexit ? Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont montrés optimistes tout à l'heure. Pas d'accord à attendre ce soir, annoncent quelques sources britanniques, comme l'a rappelé Jules de Kiss, notamment chez nos amis de la BBC. Le chef de l'État, pourtant, avait évoqué la perspective d'un accord dans les prochaines heures.
Je veux croire qu'un accord est en train d'être finalisé et que nous pourrons ainsi le consacrer demain. Nous avons d'ailleurs, quant à cet agenda européen, aussi dans notre déclaration commune de Toulouse, réaffirmé notre soutien à cette idée d'une conférence pour le futur de l'Europe extrêmement importante.
Caroline Michel-Aguirre, je vous vois sourire.
Vous voulez savoir si j'ai une boule de cristal ? La réponse est non.
Personne ne sait.
Personne ne sait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation complètement dingue ? Je vais citer plusieurs choses. Il y avait, par exemple, je vais citer une probabilité qui a été, une stat qui a été donnée par un professeur de la London School Economics cette semaine, qui a dit que d'après lui, à 50%, il y aurait une sortie avec accord, à 10-15%, une sortie sans accord, et à 35%, pas de Brexit, pas de sortie. Voilà, donc je ne choisirai pas. Bon, je vais faire un petit pas de côté. Je voudrais mettre en exergue quelque chose dont on ne parle pas souvent. C'est la situation en Irlande. Parce que cette histoire de Brexit qui déstabilise l'Angleterre, l'Europe, déstabilise encore plus cette région qui a été très brutalisée par le passé.
Oui, très meurtrie.
Très meurtrie. Je soulignerai que ça fait plus de 1000 jours qu'il n'y a plus de gouvernement en Irlande et que à l'heure où ressurgit ce qu'ils appellent un « new era », un nouvel... République de libération de l'Irlande, qui était en sommeil depuis le milieu des années 90, toute cette déstabilisation et la possibilité qu'une frontière physique réapparaisse et la possibilité ouverte à de nouveaux affrontements. Pourquoi je dis ça ? Parce que les conséquences, elles sont politiques, elles sont économiques, mais elles peuvent être aussi humaines. Donc, on a vraiment face à nous une espèce de loterie avec des conséquences qu'on ne sait même pas mesuré.
Mais vous nous ramenez au réel, Caroline Michel. Aguirre-Trégoutard, il y a l'Irlande du Nord, enfin l'Irlande, la frontière avec l'Irlande, avec l'air. Il y a également l'Écosse qui a des envies de se séparer de cette Grande-Bretagne qui elle-même se sépare de l'Europe. Nous sommes en plein chaos.
Oui, en plein chaos. Alors c'est vrai que le vrai souci, c'est l'Irlande parce que alors moi, je vais être plus prosaïque et plus cynique, c'est-à-dire si on parle gros sous, là aujourd'hui, ce qui se joue, c'est si vous imaginez là, l'idée, c'est de ne pas faire faire une espèce de frontière flottante, un peu floue entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Imaginez que l'Irlande du Nord signe un super accord avec la Chine. Et que avec effectivement la dispositif du Brexit, et ben tout ils signent comme ils veulent, etc., sans tenir compte de l'Europe, enfin tout va bien et tout. Et puis que comme la frontière sera flottante, les produits iront aussi vers l'Europe, mais tout aura été négocié, si vous voulez, à l'aune du Brexit, enfin à l'aune de la nouvelle façon de travailler des Anglais avec leurs partenaires. Donc tout ça est un sacré bazar, et je ne vois pas bien comment les Européens pourront accepter.
Il nous reste peu de temps, Georges-Marc Benhamou. Logiquement, demain on se réveille. On a peut-être une fumée blanche.
Non, mais aucun pronostic, sinon qu'on est dans ces moments, effectivement, où on ne sait pas où va le paquebot. Ça peut être une catastrophe, mais des économistes disent aussi que près de 2 ou 3 ans de vaches maigres, il peut y avoir une économie, il peut réussir son pari, donc tout est possible, je veux dire.
Stéphane Vernet,
suspense continue.
On a commenté le Brexit de façon perpétuelle aux informés de France Info, et finalement, on en est toujours au même point, il reste à peine 15 jours.
Oui, mais l'incertitude est totale. Je vous rappelle que l'année dernière, au mois de novembre,
Theresa May avait négocié un accord de Brexit avec les Européens et que quand elle est retournée en Grande-Bretagne, les parlementaires lui ont dit non, et elle a sauté, etc. Et on a remis tout à zéro. Donc tout est possible. Après, sur ce que ça va nous coûter vraiment, vous avez deux sénateurs républicains qui viennent de sortir un rapport, c'est messieurs Bizet et Chambon, et qui ont chiffré tout ça ou qui essaient de chiffrer tout ça. Et leur conclusion, c'est quel que soit le scénario, quelle que soit l'option retenue, ce sera un désastre des deux côtés de la Manche. Pour les Britanniques et pour nous, ils estiment que ça va nous coûter 7,7 milliards d'euros par an, un Brexit sans accord, pour les Français.
En tout cas, seule certitude, ce soir, il est temps de refermer ces informés de France Info, Stéphane Vernier, c'est que Ouest France souffle demain. On m'avait demandé de garder quelques secondes pour en parler. C'est 75 bougies.
Ouais. Oui, c'est ça. On a un numéro spécial qui sera tiré à 1,2 million d'exemplaires. C'est deux fois plus que ce qu'on tire en moyenne chaque jour. Je vous rappelle que c'est le premier quotidien français, Ouest France, le plus vendu en France. Avec un tiré à part, on donne la parole à un certain nombre de personnalités, des collaborateurs, des lecteurs qui nous parlent de leur attachement au journal. Et puis, on a une opération où on va offrir 15 000 abonnements offerts au journal papier pendant un mois aux lecteurs qu'ils souhaiteront au journal papier. J'ai bien dit papier. Parce que même si on a une super présence sur le web, on a plus de 100 millions de connexions internet par mois, on croit aussi au papier.
Le géant Ouest France qui fête ses 75 printemps, automne, on va dire ça comme ça. La une de l'Obs avec vous, Caroline Michel Aguirre.
Alors c'est un sujet sur l'intelligence artificielle qui va bouleverser nos vies. Il y a beaucoup aussi d'actualité dedans parce qu'il y a quelque chose sur Macron et l'islamisme et une très belle interview sur la Turquie et les Kurdes.
À lire dans l'Obs qui paraît demain et sur le net également. Et avec vous, Audrey Goutard, Ligne Directe.
L'invité, alors je balayerai l'actualité avec Raphaël Antoven.
Et je rappelle que Georges-Marc Bellamou, votre général qui a disparu chez Grasset, eh bien, va concourir à l'Interallié. Voilà, bravo, félicitations, merci à tous les quatre.
Non, c'est sur la liste, pour l'instant, rien est gagné.
Merci à tous les quatre, je vous retrouve pour ma part demain soir pour une prochaine édition des Informés de France Info. Bonsoir.